Au commencement, la création du monde, Dieu n'a pas seulement créé un homme et une femme, mais il a aussi créé le mariage. Et puis il a donné ce commandement à cette nouvelle union, « Soyez féconds, multipliez-vous ». Et nous savons bien, la procréation ne produit pas seulement des enfants, mais en même temps, elle fait de l'homme et de la femme des parents. Beaucoup d'hommes et de femmes peuvent témoigner du fait que de devenir des parents est quelque chose de trop merveilleux pour expliquer, mais qui ne demande pas beaucoup de talent. Fonctionner comme un parent, pourtant, voilà qui est difficile et qui demande beaucoup de talent et beaucoup d'efforts. Un père chrétien de 6 enfants a remarqué, « Je vous assure, il est plus facile d'être le bébé que le parent. » S'il y a une chose sur laquelle la Bible insiste, c'est l'importance des enfants. Premièrement, la Bible dit plusieurs fois que les enfants sont des dons de Dieu. Psaume 127, le verset 3. Voici que les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Mais deuxièmement, la Bible enseigne qu'ils sont créés à l'image de Dieu. La vie humaine a une valeur unique et à distinguer des animaux. Les humains sont créés à l'image spirituelle de Dieu. Parfois, nous les humains, nous avons la tendance de dire qu'une personne est plus importante qu'une autre. Auprès de Dieu, comme nous le dit l'apôtre Paul, il n'y a pas de considération de personne. Tous ont une valeur importante devant lui. La Bible ne dit pas seulement qu'Adam et Ève ont été faits à son image, mais qu'Adam a eu un fils selon son image, et il lui a donné le nom de Seth. L'image de Dieu est passée d'une génération à l'autre. Elle se trouve dans chaque enfant. Et que les enfants sont importants devant Dieu, nous n'avons qu'à considérer Jésus et son attitude envers les enfants. Une fois, les enfants ont été amenés à lui afin qu'il impose ses mains et prie pour eux. Les disciples de Jésus ont fait des reproches aux parents, comme si Jésus était trop occupé pour les petits. Jésus a répondu, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour le pareil. » Une autre fois, Jésus avait dit, « Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit-enfant, me reçoit moi-même. » Jésus s'inquiétait pour la santé des enfants et en a guéri des centaines. Il a même ressuscité plusieurs de la mort. Mais Jésus s'inquiétait beaucoup plus pour leur santé spirituelle. Le même jour où il parlait de l'importance de recevoir un petit enfant, il a dit, « Si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croit en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le noie au fond de la mer. Malheur au monde à cause des occasions de chute. Car il est inévitable qu'il se produise des occasions de chute. Mais malheur à l'homme par qui elles se produisent. » Mettez tout ce que je viens de dire dans le contexte de la famille, et vous comprenez la gravité de notre responsabilité comme parents. Nos enfants sont les dons de Dieu, et plus important, ils sont créés à son image. Et comme dit Jésus, malheur à nous si nous devenons les occasions de chute pour nos enfants. Une des plus tristes histoires dans la Bible est celle du prêtre Élie et ses deux fils, qui se trouvent en 1 Samuel, chapitre 1 à 4. Élie, pas le prophète Élie, mais il était un homme de Dieu, un prêtre, qui avait été consacré toute sa vie à Dieu. Ses deux fils, pourtant, étaient deux des plus grands pécheurs du pays. Pourquoi? Selon ce que je comprends, Élie passait tellement de temps dans son service de Dieu qu'il avait négligé ses fils. Probablement, il pensait que puisque ses fils connaissaient son travail et combien il était important, automatiquement, ils suivraient le bon chemin. Élie cependant avait un garçon sous sa charge qu'il ne pouvait pas négliger. C'était le fils d'une femme nommée Anne, le jeune Samuel, qui avait été consacré à Dieu par sa mère dès sa naissance. Samuel avait besoin d'un bon enseignement spirituel, et ainsi Élie passait beaucoup de temps avec lui. Il est certain qu'Élie ne considérait pas ses propres fils comme consacrés à Dieu. Il passait peu de temps avec eux et ils sont devenus des vauréens, comme nous avons fait remarquer dans une étude précédente. Mais l'histoire triste ne s'arrête pas avec la condamnation d'Élie, la mort de ses deux fils et sa propre mort. Elle continue dans la vie de Samuel. Samuel, lui aussi, était un homme consacré à Dieu. Il est devenu un des plus grands juges dans l'histoire du peuple hébreu, mais il avait aussi des fils. Sans réflexion, il a répété la même erreur qu'Élie. Il croyait que son travail spirituel pour Dieu était à distinguer de son devoir envers ses enfants. Il suivait donc le modèle qu'il avait vu en Élie, et il avait tort. Une des excuses données par le peuple pour le rejet du règne de Dieu et leur désir d'avoir un roi était que les fils de Samuel étaient des vauriens et qu'ils ne voulaient pas qu'il règne sur eux. Donc, comme j'ai dit, c'était une excuse, mais rappelait à Samuel son échec avec ses enfants. Celui qui essaie de s'avancer spirituellement, peut-être même sincèrement, mais qui néglige l'éducation spirituelle et la discipline de ses enfants, manque à son devoir spirituel et reste condamné par Dieu. Vous n'avez qu'à lire la condamnation de Dieu envers le prêtre Élie qui se trouve en 1 Samuel 2, les versets 27 à 36. Dans les versets précédents, il est raconté comment Élie a reproché ses deux fils et ils ne l'écoutaient pas. C'était trop tard, ils étaient déjà adultes. Il ne les avait pas disciplinés quand il était jeune. Mais la condamnation d'Élie, c'est que lui aussi, parce qu'il n'avait pas discipliné ses enfants, participait aux mauvaises actions de ses fils. Il y a trois leçons que nous pouvons apprendre de cette histoire d'Élie et plus tard de Samuel. Deux des trois, j'ai déjà mentionné dans une autre étude. Premièrement, on peut se dire dévoué à Dieu et ne pas élever ses enfants dans la droiture. Et Dieu a condamné Élie pour sa manque de responsabilité envers ses enfants. Mais deuxièmement, la Bible ne mentionne jamais la femme d'Élie. C'était lui que Dieu tenait comme responsable pour la conduite de ses fils. Et troisièmement, et voilà la nouvelle leçon, il ne faut jamais oublier notre influence pour le bien ou pour le mal. Élie, cet homme de Dieu, a appris tout ce qu'il savait au jeune Samuel, même le manque de responsabilité envers ses enfants. Et Samuel a suivi cette trace, lui aussi, en négligeant l'éducation et la discipline de ses enfants. Il y a au moins trois raisons pourquoi les parents négligent leurs enfants. Premièrement, les parents croient que d'être spirituel eux-mêmes, d'être le bon exemple est suffisant. Il n'y a rien qui est plus loin de la vérité. Oui, l'exemple est très important, peut-être la manière la plus efficace pour enseigner comme nous avons vu la semaine passée. Mais il n'est pas suffisant seul, il faut des renforcements comme nous avons dit aussi la semaine passée. Comme exemple, il n'y avait pas de meilleur qu'Élie et que Samuel. Il n'y avait pas pourtant d'enfants qui étaient de plus grands pécheurs que les enfants. Il faut plus donc que notre bon exemple spirituel, parce que d'être vu est une chose, d'être suivi est une autre. La deuxième raison pourquoi les parents négligent leurs enfants, ou la deuxième erreur, est que les parents permettent aux enfants de faire leurs propres décisions. Trop de parents ont peur de leurs enfants, ou ils ne veulent pas prendre les responsabilités de leurs décisions et donc ils abandonnent leurs responsabilités et laissent les décisions aux enfants. Le résultat est que les enfants font ce qu'ils veulent. Le problème, c'est que les enfants ne savent pas toujours ce qui est bien. Rappelez-vous du proverbe qui dit « La stupidité est attachée au cœur de l'enfant. Le bâton de la correction l'éloignera de lui. » Que nous avons vu la semaine passée, il faut que les parents donnent de la direction aux enfants, même que les enfants ne l'aiment pas tout le temps. Et parfois, il faut le bâton de la correction, comme dit le proverbe. Il a été constaté que les enfants disciplinés ou bien dirigés par leurs parents s'adaptent mieux aux problèmes de la vie. Je l'ai trouvé intéressant, quelque chose que les médecins ont constaté. Les médecins disent qu'il y a une plus grande chance qu'un enfant discipliné, guérisse d'une maladie sérieuse qu'un enfant non discipliné ou gâté. La proportion, disent-ils, est 4 contre 1. Ils expliquent que l'enfant non discipliné est facilement frustré et coopère moins facilement, tandis que l'enfant discipliné s'adapte mieux au malheur et fait le mieux de sa situation. Lorsque les situations sont égales, 4 fois de plus des enfants disciplinés guérissent de leur maladie sérieuse que les enfants non disciplinés. Donc, sans compter les raisons spirituelles pour la discipline, voilà une autre raison pour moi pour bien discipliner mes enfants à cause de mon amour pour eux. La troisième raison pourquoi les parents négligent leurs enfants est leur propre égoïsme. C'est simple, ils ne veulent pas être gênés ou dérangés par leurs enfants. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas prendre le temps pour eux. Et ils font un choix, moi ou mes enfants. Et ils choisissent donc eux-mêmes. Il y a même des parents qui, comme Élie et Samuel, au nom de leur dévotion à Dieu, négligent leur responsabilité que Dieu leur a donnée de s'occuper de leurs enfants. Et cela m'amène à parler davantage des rôles des parents. Comme nous avons déjà étudié, le mari est le pionnier chef et sacrificateur de la famille. Cela veut dire que la plus grande responsabilité de l'éducation des enfants et de la discipline des enfants est à lui, c'est-à-dire à nous les pères. Oui, la femme, la mère, a un très grand rôle aussi, mais du fait que le père a le plus grand, je m'adresse principalement à nous les pères. Par discipline, je veux dire l'enseignement, la correction et la punition des enfants. Rappelez-vous que j'ai dit que le sens premier du mot discipliner est instruire. Mais la correction et le châtiment en fait partie aussi. Je vous ai raconté comment dans nos promenades au parc de la Tête d'Or ou ailleurs, et chez les gens, que j'ai constaté que soit en public, soit chez les gens, chez eux, la plupart du temps, c'est la mère qui s'occupe des enfants. C'est elle qui veille, c'est elle qui nourrit, c'est elle qui lave les mains et soigne les blessures, et c'est elle qui discipline. Et le père, qu'est-ce qu'il fait? Il est là. Il regarde avec un air désintéressé comme le lion mâle qu'on voit dans les films sur l'Afrique. Franchement, quand je considère ce que Dieu dit aux hommes et en ce qui concerne leurs responsabilités, je suis indigné. Et je pense que de tels hommes que j'ai vus n'agissent pas mieux que des animaux. Ils sont contents d'imprégner leurs femmes, et je me sers là d'un terme plutôt pour les animaux, et puis de laisser toute la responsabilité à leur femme. Franchement, il y a des chiens qui agissent mieux que ça. Je connais les exemples des chiens mâles qui s'occupent des petits aussi. Peut-être de tels hommes croient qu'ils sont plus masculins, s'ils laissent la responsabilité des enfants à leur femme, qu'ils sont plus virils. Après tout, ils ont prouvé qu'ils sont des hommes en rendant leur femme enceinte. Mais chez les lions, qui est-ce qui gouverne, le mâle ou la femelle? C'est la femelle. Et dans notre société, cela devient presque la même chose. Quand la femme fait tout, vous avez une société matriarcale. Peut-être ces hommes dont je parle ne se rendent pas compte mais d'abandonner leur rôle, leur responsabilité à leur femme veut dire qu'ils ont abandonné leur masculinité et tout droit de se dire des hommes. Nous les hommes chrétiens, nous les hommes, nous les maris chrétiens, nous les pères chrétiens, si nous voulons être vraiment des hommes comme Jésus, masculins et virils, il faut que nous accomplissions notre rôle désigné par Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, Éphésiens chapitre 5, le verset 22, au chapitre 6, le verset 4, 1 Timothée 5, le verset 14, et d'autres passages nous donnent l'ordre, nous donnent l'ordre d'autorité établi par Dieu. Il y a Dieu, Jésus, homme, femme, enfant. Mais si l'homme, par exemple, ne discipline pas les enfants lui-même, mais laisse cela à sa femme pour n'importe quelle raison qu'il veut donner, il s'enlève de la ligne d'autorité établie par Dieu, et en même temps, cela veut dire qu'il n'est plus soumis à Jésus. J'ai lu cette citation dans une autre étude, mais je le relis ce matin. Une femme a écrit au sujet du rôle et de la responsabilité du mari et du père. « Ne cède pas tes qualités de chef, c'est la première chose. Ne nous abandonne pas les rênes. Nous le considérons une abdication de ta part. Nous serions confuses. Nous ne saurions plus pourquoi nous t'avons aimé. Oh, nous prendrons la position numéro un dans le foyer, mais cela sera une contradiction terrible en nous. Il semblera que nous sommes en lutte avec toi pour le droit de l'autorité, mais au fond de nous-mêmes, nous voulons que tu gagnes. Il faut que tu gagnes, parce que nous ne sommes pas faits pour être chef. De Dieu, nous les pères, nous avons ce commandement, en Éphésiens chapitre 6, le verset 4. L'apôtre Paul écrit, il dit, « Et vous, les pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » Nous, les pères chrétiens, comme chefs de notre famille, nous n'avons pas le choix si nous voulons obéir à ce commandement ou non. Si nous voulons faire plaisir à Dieu et sauver les âmes de nos enfants, il faut l'obéir. Rappelons-nous que Jésus a dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Un commentateur a dit que les mots « élevés » peuvent être traduits littéralement, « Nourrissez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » L'intellect et l'âme doivent être nourris de discipline, c'est-à-dire l'instruction, la correction et la punition, comme le corps doit être nourri de la nourriture et des exercices physiques. La discipline, le sujet d'Éphésiens chapitre 6, le verset 4, comprend tout ce qui est bien pour les enfants, les enseignements positifs de comment agir. Et cela peut venir de notre bon exemple, ou des exemples de la Bible, ou des exemples d'autres chrétiens. La discipline comprend des principes, des règles et des avertissements. Et la discipline comprend tout ce qui instruit l'âme et la rend pure. Quand Paul a écrit au jeune Timothée au sujet de ceux qui ne s'occupaient pas de leur famille, il écrivait au masculin. Cherchez avec moi 1 Timothée 5, le verset 8. 1 Timothée 5, le verset 8. Et voilà ce qu'il dit. Si quelqu'un, regardez bien le masculin, si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Paul le dit dans le contexte des besoins physiques des veuves. Mais parce qu'il le met au pluriel, on voit qu'il comprend aussi d'autres membres de la famille que des veuves. Si le mari doit veiller aux besoins physiques, il est certain qu'il doit veiller aux besoins spirituels qui sont beaucoup et mille fois plus importants. Moïse s'adressait aux hommes, aux chefs de famille en Israël quand il transmettaient le commandement de Dieu, d'inculquer la parole de Dieu à leurs enfants. En Deutéronome 6, les versets 4 à 9, que nous avons lu la dernière fois. En Deutéronome 32, les versets 46 et 47, Dieu dit au Père en Israël, à travers Moïse, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui, de commander à vos fils, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas pour vous une parole creuse, c'est votre vie. » Pourquoi dit-il « commandez ces paroles à vos fils » Parce qu'un jour, ils seront chefs de famille, et il faut qu'ils transmettent la parole à leurs enfants. La responsabilité tombe sur nous, les hommes. Nous, les parents chrétiens, nous, les pères chrétiens, parce qu'il est à nous la plus grande responsabilité, c'est notre vie, la parole de Dieu. Et c'est aussi la vie de nos enfants. Lorsqu'une chose est une question de vie ou de mort, il faut être excité. Nous avons donné la vie physique à nos enfants. Et maintenant, il faut les amener à la vie éternelle. Il n'y a pas de plus grand échec dans la vie que le père qui a du succès dans tout ce qu'il fait, mais perd ses propres enfants par manque de responsabilité à leur égard. Nous, les pères, nous devons fortifier les muscles moraux de nos enfants. Pas par les paroles seulement, mais par des exercices de l'obéissance. L'obéissance de nos enfants commence avec notre obéissance au commandement de Dieu. La Bible dit aux enfants, « Enfants, obéissez à vos parents. » Et Paul ne donne pas de raison dans le passage, mais il dit tout simplement « car cela est juste ». Parce que les enfants ne sont pas toujours obéissants, il faut les châtier de temps en temps. Et qui est-ce qui doit le faire? L'apôtre Paul dit le Père. Le Père doit le faire, mais bien sûr, comme dit Paul, sans irriter ou sans provoquer, comme dit une autre traduction. Donc qu'est-ce que cela veut dire de ne pas irriter ou les provoquer? Bon, d'abord, cela veut dire de ne pas être trop dur. De ne pas être trop dur. Mais ensuite, cela veut dire aussi de ne pas être trop faible. Un enfant doit comprendre où il est. Est-ce qu'on m'aime assez de me discipliner comme il faut? Comme il faut. Oh, il ne le demande pas à haute voix, mais à l'intérieur et sans le savoir, il le demande. Un enfant veut savoir où il est. Et puis, les discipliner sans les irriter veut dire que l'on est équitable et juste, toujours juste. Cela veut dire qu'il ne faut pas discipliner quand on est en colère, si possible, parce qu'alors à ce moment-là, on risque de ne pas être juste et d'être peut-être trop dur. De discipliner l'autre enfant qui n'avait rien fait. Je me rappelle les occasions où peut-être ma mère ou mon père étaient en colère. Et ils ont donné des fessées à tous les deux. Et moi, j'étais innocent. Hébreux chapitre 12, les versets 5 à 11, dit au sujet de la discipline de Dieu, et qui est l'exemple dans ce passage? Encore, c'est le Père humain. Hébreux chapitre 12, les versets 5 à 11. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. « Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime, et frappe de verge tout fils qu'il agrée. » Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards. Et nous, les fils, puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous ont respectés, ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon, mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Mais trois fois, les pères sont mentionnés en rapport avec la correction, c'est-à-dire les pères chrétiens, au verset 7, 9 et 10. Qu'est-ce que dit Josué au peuple d'Israël? Il dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué était sûr, parce qu'il était en contrôle, il était le père, le chef de la famille. Il était en contrôle parce que lui-même, d'abord, il s'est consacré à Dieu. On peut dire, dans un sens réel, qu'un enfant peut avoir deux pères. Son père naturel ou biologique et son père spirituel, c'est-à-dire celui qui apprend les choses spirituelles et qui l'amène à Dieu. L'apôtre Paul était un père spirituel pour le jeune Timothée parce que c'est lui qui l'avait converti. Mais la compréhension de Dieu que l'enfant a dépend en grande partie des actions de son père biologique. Il est important donc que son père biologique fait partie du fil conducteur qui le relie à Dieu. Il y a l'ordre établi par Dieu. Dieu, Jésus, homme, femme et enfant. Il faut que l'homme fasse partie de cette ligne. Et quel dommage quand ce n'est pas le père biologique qui est aussi le père spirituel de l'enfant. Il y a quatre sortes de pères dans l'Église. Le père biologique, mais qui ne connaît pas son rôle et ses responsabilités. Le père biologique qui connaît son rôle, mais qui ne veut pas se déranger et laisse donc toute la responsabilité des enfants à sa femme. Il y a le père biologique qui connaît son rôle, mais qui est indifférent à la condition des âmes de ses enfants. Et puis le père biologique qui connaît son rôle et prend au sérieux les enseignements de Dieu, et qui essaie donc d'être aussi un père spirituel. Bon, dans ces études que nous sommes en train de faire, nous ne pouvons pas dire que nous sommes le premier, parce que nous avons vu maintenant les instructions de Dieu et le rôle que Dieu nous a donné. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes le père biologique qui ne connaît pas son rôle et ses responsabilités. Donc, il n'y a que trois autres choix. Moi, je dois me demander lequel de ces trois autres pères suis-je. Et toi, Max Donner, tu dois te demander lequel de ces pères suis-je. Et toi, Daniel Thomis, tu dois te demander lequel de ces pères suis-je. Et toi, Max Lanois, tu dois te demander lequel de ces pères suis-je. Chaque père doit se demander la même question. Si nous ne savons pas lequel, une autre question peut-être peut nous aider. Lorsque nos enfants ont un bonheur ou un problème à partager, à qui est-ce qu'ils vont? À nous, le père, ou à leur mère? S'ils vont à leur mère, alors nous pouvons être sûrs que nous ne sommes pas la dernière sorte de père, c'est-à-dire celui qui connaît son rôle et prend au sérieux les enseignements de Dieu et qui essaie donc d'être aussi un père spirituel. Pour le bien des âmes de nos enfants, pour le bien de l'âme de notre femme et de notre propre âme, nous, les pères, tâchons d'être le dernier, c'est-à-dire celui qui connaît son rôle et prend au sérieux les enseignements de Dieu et essaie donc d'être aussi un père spirituel pour ses enfants. C'est une question de vie ou de mort.